enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, eh bien mon message, devinez. Le prix de l'autorité, 7e partie. Mes enfants m'ont dit, mais tu nous fais Prison Break, saison 1, saison 2, saison 3. Tant que Dieu me mettra à cœur de vous parler là-dessus, je vous parlerai. Cependant, le thème qui est sous-jacent au thème principal là, sur l'autorité, c'est l'esprit de service. Luc 6, 40, qu'est-il écrit ? Vous voyez, j'ai raison de prêcher encore 50 fois là-dessus. Parce que ça fait 6 fois que je vous dis le même verset, vous n'êtes pas encore capable de me le redire. Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dis à ton voisin, tu vas devenir comme Jésus. Il y en a, ils disent rien du tout. Madame se ronge même les ongles en disant aïe, 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 aïe. Tu vas devenir comme Jésus. Attendez, de deux choses l'une, ou la Bible dit la vérité ou elle ne la dit pas, ou c'est possible ou ce n'est pas possible. Pensez-vous que Jésus vous propose quelque chose d'impossible ? Non. Non, je crois que Dieu nous permet eh bien, d'avoir accès à une dimension à laquelle il nous invite. Cependant, nous avons vu que si nous voulons être comme le Maître, il nous fallait eh bien, suivre le chemin du Maître. Nous ne pouvons pas prétendre à l'autorité du Maître si nous-mêmes ne suivons pas le même chemin. Parce que si nous pouvions prendre un autre chemin ou un raccourci, cela signifierait en d'autres mots que vous et moi, nous serions plus grands que le Maître, ce que nous ne serons jamais, que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais, au travers de la parole de Dieu, examiner ce que Jésus nous donne comme exemple. Lui, le maître, qui, malgré maître qu'il était, eh bien, deviendra le serviteur de tous, nous indiquera l'esprit qui doit nous animer, un esprit de service. Là où il n'y a pas d'esprit de service, il n'y aura jamais l'autorité de Dieu. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi. Mon premier point, c'est une question. Et alors que je méditais sur ce thème, je me suis posé cette question. L'esprit de service est-il naturel et spontané ? L'esprit de service est-il naturel et spontané ? Alors, un test simple. Qui a des enfants ? Quand vous rentrerez à la maison, qu'ils seront assis à table, demandez-leur simplement de vous rendre service. Michael, tu pourrais me chercher le bois ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas lui ? Ou alors, tiens Benjamin, tu pourrais me chercher le bois ? Combien tu me donnes ? Ou alors Josué, tu pourrais me chercher le bois ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais justement, t'as rien fait, c'est l'occasion de faire quelque chose. Hein ? Voilà à peu près spontanément ce que vous entendez quand vous demandez un service. Et j'en ai conclu que, eh bien, en règle générale, on constate que dans la nature de l'être humain, il est plutôt attiré vers le fait d'être servi que vers le fait de servir. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous à un niveau donné ou à un autre. Ceci dit, quand il rend service, il a besoin de ressentir toujours, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, une contrepartie. Vous savez, même les altruistes, même les bienfaiteurs, peuvent trouver dans les actes de bienfaisance qu'ils font une certaine reconnaissance, un aspect gratifiant, puisqu'ils deviennent aux yeux de ceux qu'ils ont secourus et aidés des bienfaiteurs. Et j'en parlais avec Jean-Marie dernièrement, il vaut toujours mieux être bienfaiteur que passer pour un égoïste. Donc, à quelque part, d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de reconnaissance dans ce que nous faisons. J'étais plus loin. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ? Eh bien, ces réactions. Et qu'est-ce qu'elles révèlent ? Qu'est-ce que révèlent ces réactions ? Je ne vais pas vous dire que je fais le tour de la question, c'est impossible. Mais une grande ligne. Une grande ligne, qu'est-ce que révèlent ces réactions ? Eh bien, l'une des choses principales qu'elles révèlent, c'est le sentiment et la crainte que nous avons d'être dominés par l'autre, exploités par lui. La peur que l'autre profite de nous. Regardez dans le monde du travail, dans le cadre du travail où un salaire est versé. On dit oui pourquoi ? On dit oui parce qu'il y a une contrepartie, d'accord ? Et cette contrepartie vous donne le sentiment intérieur de ne pas être justement abusé ou dominé. Il y a un contrat tacite. Ce salaire contre ce travail. À ce moment-là, on fait le travail pour le salaire. On ne se sent pas diminué face à l'autre, ni abusé, quoique. Quoique. Moi, j'avais des collègues de travail avec moi. Je les voyais parfois voler. Et je leur disais, mais pourquoi tu voles ? Et ils me disaient, je rééquilibre mon salaire. J'estime que je suis trop peu payé, qu'on profite de moi, donc ce qu'il me manque, je l'encaisse. Vous avez déjà entendu ça ? Rééquilibrage de salaire. Un jour, un de mes copains me dit, moi je vole pas, je lui emprunte à vie, c'est tout. Et il est revenu le lendemain matin, la mine défaite. Je lui dis, Michel, ça va pas ? Il dit, j'en ai marre. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, on m'a pété la vitre de la bagnole pour me voler l'autoradio. Je dis, mais non, il te l'a pas volé, il te l'a qu'emprunté à vie. Mais du coup, quand ça lui arrivait à lui, il avait plus la même définition des choses. L'être humain a toujours ce besoin de négocier ce qu'il va faire parce que cette négociation lui donne le sentiment de manifester son autorité, son pouvoir au travers de son libre arbitre, pouvoir dire oui ou non. Et ce que je viens de vous dire là est extrêmement important. Il a besoin de faire sentir qu'il exerce son pouvoir au travers du oui et du non. C'est pour cela qu'il a toujours besoin d'une contrepartie, que ce soit de la reconnaissance lorsqu'il fait quelque chose gratuitement, que ce soit de l'argent lorsqu'il fait quelque chose parce qu'il a négocié ce qu'il allait faire. Pourquoi réagissons-nous comme cela ? Pourquoi fonctionnons-nous comme cela ? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas simplement serviteurs les uns des autres naturellement ? Pourquoi lorsque l'autre nous demande quelque chose, avons-nous tellement de mal à dire spontanément oui, sans aucun regret ? Suivez-moi dans la Genèse. Dans la Genèse, et vous allez comprendre, eh bien, un problème majeur que nous avons tous et qui date. Dieu va demander à l'homme de faire un choix. Celui de se soumettre par obéissance dans la liberté la plus complète à un ordre qu'il lui avait donné, tu n'en mangeras pas. C'est certainement la première fois qu'Adam et Ève vont avoir de la part de Dieu un non. C'est certainement la première fois qu'Adam et Ève vont entendre ceci oui, mais cela non. À partir de ce moment-là, naît le premier choix possible. Et Dieu, là, s'adresse à l'homme en attendant de lui qu'il se soumette naturellement à sa volonté. Jusque-là, Adam et Ève n'avaient aucune raison de faire autre chose que ce que Dieu leur demandait. Il ne les avait jamais trompés. Il ne leur avait jamais menti. Il, eh bien, n'avait jamais profité d'eux, jamais. Mais voilà que dans le jardin, Satan vient. La Bible nous dit sous la forme du serpent. Écoutez, Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Non seulement il leur donne une interdiction, mais il leur dit pourquoi il la donne. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez bien, parce que pour moi, ça a été une clé et une révélation. Satan vient pour la première fois dans l'histoire humaine d'introduire la notion d'abus, de domination, de supériorité, de puissance et de pouvoir. Jamais auparavant, Adam et Ève n'avaient pensé que Dieu pourrait abuser d'eux dans ce sens qu'il les priverait d'une autorité qui les rendrait égale à lui. En d'autres mots, il leur dit, Dieu est en train de vous tromper, il a peur que vous ayez la même autorité que lui, il craint que vous deveniez comme lui. Le choix d'Adam et d'Ève va donc être motivé pour la première fois par de la suspicion à l'égard de Dieu. D'un côté, la tentation, l'attirance vers quelque chose de nouveau. De l'autre côté, cette pensée qui a laissé place à de la suspicion permettant de penser que Dieu est en train de vouloir volontairement les priver d'une dimension à laquelle ils pourraient avoir droit et dans laquelle ils pourraient entrer. Ils aspirent à ce statut égal au sien. Cette pensée va conduire l'homme et la femme à la désobéissance. À partir de là, l'homme sera en conflit d'autorité avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, avec son prochain. Naîtra la jalousie, Caïn et Abel. Naîtront l'envie, naîtront la soif du pouvoir. Et il me semble que la soif du pouvoir n'a jamais quitté l'être humain. La soif de devenir comme Dieu, la soif d'être plus grand que l'autre et surtout la crainte de voir l'autre être plus grand que soi et nous exploiter. Si vous comprenez ça, vous comprendrez un fonctionnement de base qui est inscrit en nous et dans lequel souvent nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu parce que cette pensée inconsciemment nous domine et nous conditionne. La crainte d'être exploité avec le vouloir, avec la volonté de nous élever et d'être comme Dieu. C'est la genèse de bien des souffrances. Écoutez bien maintenant, sur cette base-là, eh bien, l'homme construira une société. Les valeurs de la société actuelle sont basées exactement sur le péché d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce que je veux dire ? La société humaine déclare que le plus grand est celui qui exerce le pouvoir et qui au travers de cela possède la puissance. Quand tu te trouves en haut de la pyramide, quelle qu'elle soit, quel que soit le milieu, tu es le plus grand parce que tu fais ce que tu veux. Tu jouis du sentiment d'être le maître du monde. En fait, tu es, en guillemets, comme un petit Dieu. Pourquoi les gens se battent toujours pour être en haut ? Vous en avez déjà vu se battre pour être en bas ? Allô ? Vous en avez déjà vu ? Non, moi, je veux pas être Rothschild. Je veux pas être Rothschild. Je vais être comme Lazare.
Purée, en 20 ans, j'en ai pas vu beaucoup, hein.
Dans les églises, j'ai rarement vu des gens qui me disent « Pasteur, moi je voudrais faire ce que personne ne veut faire. » En général, on veut toujours faire ce que tout le monde voudrait faire. Et puis on se dit « Mais si j'arrive à monter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches, là je serai grand. » Tu sais pas ce qui t'attend là-haut. Parce que si tu montes pour être grand là-haut, il y a quelqu'un au-dessus de toi qui va te ramener en bas et va te faire petit. Ce besoin de nous élever, ce besoin de dominer, ce besoin de sentir « je suis le chef ». Alors quand on n'y arrive pas au boulot, on le fait à la maison. C'est moi le chef, femme, obéis. Avez-vous déjà remarqué que les pires des chefs, c'était les petits chefs dans votre travail? Vous savez, les petits chefs, ça fait des années qu'ils aspirent à être le chef. Et quand je serai le chef, alors là, je régnerai. Souvent, ils sont très cruels. Souvent, ils sont très cruels, les petits chefs. Rien de pire que les petits chefs. Mais alors, quand des petits chefs deviennent des très grands chefs, c'est encore pire. Le besoin de dominer, le besoin de devenir comme des petits dieux, c'est-à-dire, c'est quoi un petit dieu? C'est quelqu'un qui peut dire, fais ça. Il dit oui quand il a envie, dit non quand il a envie. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin historique sur Néron. Si vous voulez savoir ce que c'est un type qui a perdu la boule, lisez ça. Un type qui se prend pour Dieu, lisez cela. C'est les pires des abominations. Les pires. Tout va être mis en œuvre pour monter. Regardez, dès qu'on est enfant, on rentre dans une espèce de course aux valeurs. Et le plus grand, c'est toujours le meilleur. Évidemment, être le moins bon, c'est pas une vertu non plus. Mais le plus grand, c'est toujours celui qui a le plus de diplômes, qui est bardé du plus grand nombre de médailles. Et quand c'est pas par les études, c'est par la vie professionnelle. Le but, c'est toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et on a le sentiment d'avoir réussi une carrière quand on est tout en haut. Alors réussir les études, je m'adresse là aux jeunes, c'est très bien, allez-y. Si vos motivations sont pures et claires et qu'elles sont là pour aider les autres un jour, quel que soit votre poste, si vous avez un esprit de serviteur, même à la plus haute place de la société, vous serez un homme utile pour Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas étudier, au contraire, je vous encourage à le faire. Je vous encourage. Mais quelle est la motivation? Pourquoi toujours vouloir aspirer à aller vers le haut, vers le haut, vers le haut? Et pour aller vers le haut, on est prêt à tout. Moi, j'ai vu au boulot, j'ai bossé pendant 4 ans un peu. Vous savez, 4 ans, ça vous donne déjà un petit aperçu de la société. Dans un certain milieu, c'est vrai que c'est une sphère, c'était la mienne. Mais les gars, pour monter, étaient prêts à raconter des salades sur leurs concurrents. Les gars, pour monter, n'hésitaient pas à, escalader les cadavres. Hein. Pourvu qu'on monte. Toutes sortes de moyens illégaux. Et puis, dans certains pays, on monte comment? On monte au bruit de l'arme automatique et du char. Encore une fois, pourquoi? Pour être en haut. Parce que quand je serai en haut, je serai Dieu. Je serai le maître. Mais ça, vous pouvez le retraduire à tous les niveaux de la société, au vôtre. Au vôtre. Maintenant, Jésus va venir. Et lui va parler des grands de ce monde. Il dira, et s'adresse aux 10. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre... » Serviteur, waouh! Attendez, Jésus vient avec une notion de la grandeur, inversement et proportionnellement contraire à celle que la société a établie. Jésus est en train de dire ce matin, le plus petit parmi nous, le serviteur des autres, c'est le plus grand aux yeux de Dieu. Pourquoi? parce qu'il est justement en train de réinstaurer un règne dans lequel ce n'est pas la suspicion qui est à la base, ce n'est pas Satan qui commande, mais c'est lui qui commande. Et c'est pourquoi autorité et esprit de service vont de pair. Vous ne pourrez jamais recevoir l'autorité du Seigneur dans la mesure où vous n'avez pas une âme de serviteur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, vous allez faire de l'autorité spirituelle que Dieu vous donne le moyen, encore une fois, de vous élever pour dominer. C'est essentiel que nous comprenions ça. J'ai vu des gens qui priaient, « Seigneur, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de chasser les démons, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Mais la motivation, c'était « Quand j'aurai ça, on reconnaîtra que je suis grand, que je suis béni et je m'élèverai. » Évidemment que ce n'est pas avoué, évidemment que ce n'est pas dit, mais certains, sans le dire, ils le transpirent. Tellement ça sent fort. Jésus va dans le sens inverse. Regardez, dans Marc 10, 43 à 45, il dit, « Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Souvent nous disons, « Seigneur, je veux ton autorité. » Qui n'a jamais dit ça ? Je veux ton autorité. « Seigneur, tu as dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Eh bien, j'aimerais vous dire et me dire ce matin, ça fait partie du programme. Si nous voulons être comme le maître dans l'autorité, il nous appelle à être comme lui dans le service. Si nous voulons lui ressembler, il nous appelle alors, nous, à lui ressembler également dans le service. Jésus est notre exemple. Et c'est mon deuxième point. Il est ton exemple. Regardez ce qui se passe parmi les disciples. Ils avaient apparemment les mêmes problèmes que nous. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Ça, ça arrive jamais chez vous, hein ? Vous savez, parfois, là, dans notre tête, qui est le plus grand ? Qui est le plus capable ? Qui ceci ? Qui cela ? Sur le lieu de travail, où que nous soyons, ce genre de pensées viennent. Qui est le plus grand ? Et d'après les commentateurs bibliques, il semblerait que cette discussion soit venue juste avant la sainte scène qu'ils allaient célébrer, dans laquelle, auparavant, Jésus allait leur laver les pieds. Et les commentateurs partent du principe suivant. Ils disent, lorsque Jésus se réunissait dans la nature, les disciples étaient en règle générale tous assis autour de lui, d'accord ? Ils mangeaient, et Jésus était assis, et tout le monde pouvait être assis ou à ses pieds, ou autour de lui, etc. Maintenant, il rentre dans une chambre qui a été préparée pour la Sainte Cène. Là, il n'y a qu'une table. Et à cette table, ils seront les uns à côté des autres. Et la discussion s'élève, qui est le plus grand parmi nous pour pouvoir s'asseoir directement à côté de lui ? D'ailleurs, la mère de deux a demandé, « Mais Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et les 10 autres, et nous, on sent le gaz. Et c'est dans ce moment-là que Jésus va faire un acte absolument extraordinaire. Un acte que personne parmi eux n'a voulu faire. Jean 13, 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Le lavement des pieds faisait partie des traditions d'hospitalité en Orient. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que lorsqu'on marchait en sandales toute la journée, les pieds étaient poussiéreux, les pieds étaient parfois, quand il pleuvait, il y avait de la boue et ça sentait mauvais. Schweißfias. Ça sentait mauvais. général lavait les pieds, le serviteur ou l'esclave du rang le plus inférieur. Écoutez bien, c'est pas n'importe quel serviteur qui lavait les pieds. C'est pas n'importe quel esclave, c'était l'esclave du rang le plus inférieur. C'est-à-dire que quand lui se retournait, il n'y avait plus personne. Lui, l'inférieur de tous, devait laver les pieds aux autres. Maintenant, Jésus arrive dans cette pièce. Elle avait été préparée pour eux, pour la Sainte Cène. Personne n'avait été désigné pour leur laver les pieds. Ils arrivent. Et les uns et les autres commencent à avoir une discussion. Qui est le plus grand parmi nous? Qui va pouvoir s'asseoir? Voilà leur préoccupation. Regardez ce que Jésus leur dit un jour. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Dans Luc 22, 27. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus va leur donner une leçon. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alors, je voudrais juste faire une remarque. Dans certains milieux, eh bien, on a fait de cet acte un rituel. On a fait de cet acte du lavement des pieds un rite. C'est-à-dire que vous avez des églises, on prend la Sainte Cène que tous les 3 mois, et avant de la prendre, on se lave les pieds. Cependant, Jésus est en train de faire autre chose là. Jésus est en train de faire quelque chose dans lequel il prophétise à Pierre. Il prophétise, eh bien, que ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs il lui dit, ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas encore maintenant, mais tu le comprendras. Le temps viendra où tu le comprendras. Le temps viendra où tu comprendras que je suis mort pour tes péchés, mais journellement, tu as besoin de te laver en moi, parce que le péché s'attache à tes pieds. Deuxième chose, il leur donne un exemple d'humilité et de serviteur. Il leur montre pourquoi il est venu et ce qu'il est en réalité. Et troisièmement, quelque chose que nous pourrions également tirer de cela, c'est qu'il nous rappelle que nous sommes amenés à nous pardonner les uns les autres régulièrement. Régulièrement, nous laver les pieds. Nous laver les pieds. Nous, on préfère se laver la tête, hein? Hein? La virgine, benita, c'est. Oh, il est amsoki, hein? Oh, va t'amsoki, hein? Suzanne, Peter Schmidt, wo bist du? Der Vater lacht. Aber t'amsoki, ich. Oh, das Pirschla, das wird's ja. Jésus est en train de dire, je suis en train de vous faire quelque chose que vous allez devoir vous faire régulièrement, vous pardonner mutuellement. Parce que dans la marche, certains trébuchent, font des fautes à l'égard des autres, et c'est les autres qui vont devoir s'abaisser, s'humilier pour leur pardonner. Pour leur pardonner. Permettez-moi d'aller plus loin. L'esprit de service, c'est mon troisième point. En quoi consiste-t-il ? Philippiens 2, 5 à 7, il est dit, comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus. Est-ce qu'on se comporte entre nous comme on le fait quand on connaît Jésus? Ne répondez pas tous en même temps, je pourrais m'effrayer. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes et il a été reconnu comme homme. Paul nous exhorte à nous comporter entre nous comme on le fait quand on connaît Jésus. C'est-à-dire que quand on connaît Jésus, notre comportement change. La manière de servir change. On va plus calculer quand on sert. On va plus d'abord négocier pour avoir le sentiment d'exister. On va pas chercher à gravir les échelons. On va juste chercher à une chose, à faire sa volonté. Juste être son serviteur. Lorsque nous lui appartenons, eh bien nous exerçons un service dans lequel nous abandonnons volontairement et délibérément toute forme de revendication et de droit. Hello, est-ce qu'en France on peut parler de ça? Y a-t-il un Français dans la salle? Moi, j'ai l'impression que depuis que j'en parle, il n'y a plus de Français. Est-ce qu'en France, on peut parler de renoncement à toute forme de droit et de revendication? Attention, je n'ai mis le Est-ce que je peux ce matin à l'église de Jésus-Christ dire que l'esprit de service que Jésus nous propose est un esprit dans lequel je revendique rien et je n'ai aucun droit? Écoutez ce que Jésus dit. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre ce qu'il dit? Écoutez bien. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire « Viens vite te mettre à table ?» On pourrait dire « C'est le droit et l'autre l'a servi, viens au moins à table. » Non. Il lui dira plutôt « Prépare mon repas, puis change de vêtements. » Dominique, t'avais déjà lu ce truc-là? Non, c'est vrai que c'est pas le moins de maître. Hein. Puis change de vêtements pour me servir quand je mange et bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. Ça, c'est sympa. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Ça semble logique à Jésus, hein? Là, j'en sens qu'ils ont des frissons, hein? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Il y en a en disant Amen, ils sont tellement tendus que les pieds montent, Amen. Dis à ton voisin, t'as que fait ton devoir. Serre-lui la main. Le foie gras, c'était que ton devoir. Et moi, le manger, ce sera que mon devoir. À chacun son devoir. Mais il vaut mieux que vous le mangiez quand lui le fait que quand moi je le fais. Pas de revendication. Serviteur. Seigneur, que puis-je faire? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je ne vais pas vous faire une liste des choses à faire, ce serait ridicule. Je sais que le Saint-Esprit vous l'a déjà montré. Et je sais aussi toutes les fois où vous avez dit non, ça je ne le ferai pas, ça je ne le veux pas, ça je le refuse. Quoi? Aller coudre les trous des draps qu'on va envoyer en Serbie? Mais non, jamais. C'est pas digne de moi. Frères et sœurs, quand vous aurez fait ce que lui vous dit, vous serez digne de lui. Parce que lui est en train de nous indiquer que le plus petit devant les hommes, c'est le plus grand. Que le serviteur de tous sera celui qui aura l'autorité qui servira les autres. Tu veux l'autorité? Alors j'aimerais te dire, il va falloir descendre et pas monter. Et ce n'est possible que dans la mesure où nous avons accepté de mourir à nous-mêmes. Cet après-midi, nous aurons des baptêmes à 15h. Qu'avons-nous fait dans les eaux du baptême? Nous avons dit, Seigneur, je meurs à moi-même pour ressusciter avec toi. C'est-à-dire, je renonce à toute revendication et à tout droit. Qui est déjà baptisé dans la salle? Levez voir la main, tous les baptisés. C'est drôle qu'on sent pas plus ce vent de service au milieu de nous, avec tous ces morts ressuscités. Papa Jean, tu devrais regarder toutes ces mains. Tous ces morts à eux-mêmes ressuscités. On a le sentiment que on a encore un peu de mal. Et vous n'êtes pas les seuls, moi aussi. Moi aussi, parfois, tout d'un coup, je me surprends. Quand je dois faire quelque chose, pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Frères et sœurs, apprenez à renoncer. Et vous serez les hommes et les femmes les plus libres. Peut-être que vous vous êtes fait rouler. Peut-être que certains ont abusé de vous. Vous savez, avec le papa Jean, moi j'en ai vu qu'ils l'ont roulé dans tous les sens. S'il y en a un qui a été roulé dans la farine, c'est lui. Et même s'il fallait beaucoup de farine pour le rouler, lui, je vous assure, il s'est fait rouler de partout. Mais chaque fois qu'il se faisait rouler, il me disait, Samy, réfléchis. Ceux qui roulent, ils sont toujours obligés de recommencer parce qu'ils n'ont jamais rien. Et moi qui suis roulé, j'ai toujours pour donner. C'est de la bénédiction de Dieu que tout dépend. Mort à notre ancienne nature. Je termine. J'aimerais terminer par une image.
L'autorité d'un ministère est en proportion, ce sera ma conclusion, sera en proportion de la grandeur de Dieu dans sa vie. Et cette grandeur se manifeste concrètement par sa capacité d'être serviteur. Jésus mesure la grandeur au service. Pas à ce que tu es en haut, au service. Et ce matin, pendant un instant, j'aimerais demander à mon frère Gérard de venir. Où est-il? J'aurais besoin de 5 personnes. Je voudrais terminer comme ça, tranquillement. Je voudrais que nous arrivions à une conclusion dans laquelle nous ayons envie de dire, moi j'ai envie de servir mon prochain. J'ai envie de servir mon prochain. Il me faudrait 5 personnes. Papa Jean, je voudrais que tu viennes. Oui, toi. Kassan, est-ce que tu es là, Kassan? J'ai vu Ali. Ali, est-ce que tu es là, Ali? Viens voir Ali. Kassan, où es-tu? Tu es là? Viens, s'il te plaît, ma petite sœur. Merci. Ça, les trucs modernes, hein? Je voudrais encore 2 personnes. Est-ce que je pourrais... Tiens, demander à un petit enfant de venir. Est-ce qu'il y a un petit enfant qui est ici? Ouais, t'as levé le doigt. Viens, viens, je t'ai vu. Viens vite chez moi. Ça, c'est bien. J'ai vu une sœur qui a eu une antenne. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Viens, mon grand. Et j'aimerais peut-être encore terminer par une sœur. Vous avez le droit de vous asseoir. Allez, une sœur. Quelle est la sœur qui veut bien venir? Allez, une sœur. Voilà, c'est bon. Viens vite, ma sœur. Ce matin, je voudrais, pour terminer, simplement faire la chose suivante. Pendant un instant, je voudrais leur laver les pieds, pas parce que je suis le maître, mais parce que je voudrais vraiment que nous apprenions à nous servir les uns les autres. Et je n'ai pas choisi au hasard. J'ai choisi mon frère Ali et je veux lui laver les pieds pour dire à tous les Maghrébins qui sont ici, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes là pour vous bénir. J'ai choisi ma petite sœur Kassan pour dire à tous les jeunes, il y a toutes les jeunes femmes et tous les frères de couleur, nous ne sommes pas supérieurs à vous, en rien. Nous sommes là pour vous servir et je suis là pour vous servir. Est-ce que tu peux ôter ton... Non, mais je ne veux pas leur laver les pieds avec les chaussures. J'ai choisi le papa Jean parce que je vois en lui un des aînés qui est là. J'aurais pu prendre n'importe quel aîné, j'ai voulu le prendre lui. Parce que je voudrais exprimer 2 choses. Je veux être son serviteur et je voudrais aussi que tous les fils ici présents puissent dire « Je voudrais servir mon père. Je voudrais honorer mon père et ma mère de cette manière-là. » C'est pour cela que je l'ai pris. J'ai voulu un petit garçon parce que tout simplement, trop souvent dans les églises, on oublie les enfants. Nous sommes aussi serviteurs des plus petits. Des plus petits. Des plus petits. Et puis, j'ai voulu une sœur simplement pour, de manière plus large, dire à toutes les sœurs, nous les hommes, nous n'avons pas été appelés à vous dominer en quoi que ce soit, mais à vous servir et à vous bénir. Et je voudrais, pendant que je leur lave les pieds, que nous fermions les yeux et que nous prions. Si Bernard pouvait venir au piano. Et je vais simplement, pendant ce temps, eh bien, leur laver les pieds. Et au travers de cela, eh bien, vous exprimez votre volonté, ma volonté de nous servir les uns les autres. Et pendant ce temps, j'aimerais que vous-même vous mettiez à prier. À prier à votre place en disant, Seigneur, moi aussi je veux laver les pieds de mon frère. Pas forcément physiquement. Mais simplement en le servant. Simplement en le servant. Là où vous soyez, priez. Mon frère Bernard, joue simplement ce cantique tel que je suis. Je viens à toi. Et à mon frère Ali. Père, je te bénis de ce que je peux laver les pieds de Ali, de tout cœur. Et lui dire et dire à tous les frères, toutes les sœurs qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent de tous ces pays, et qui souvent, dans ce pays, parfois même dans l'Église, sont laissés de côté, que nous sommes là et je suis là pour les servir. Seigneur, je veux bénir Ali et toute sa famille et te demander de lui accorder ta grâce, qu'il soit au milieu de nous une grande bénédiction, que ton nom soit béni. Amen. Priez dans votre cœur. Dites, Seigneur, fais de moi un serviteur. Fais de moi une servante. Seigneur, aide-moi. Kassan, ma sœur, au travers de toi, je veux servir tous les jeunes qui sont dans cette salle. Ceux qui ont 20 ans, 21 ans, 18 ans. Mais aussi tous les frères et sœurs de couleur. Tous mes frères et sœurs d'Afrique que j'aime. Je suis là pour vous servir. Et je voudrais vraiment que vous puissiez ici, dans ce lieu, vous épanouir. Voir la gloire de Dieu sur votre vie. Voir ta gloire, la gloire de Dieu sur ta vie, Kassan, et sur la vie de toutes les jeunes filles dans ce lieu. La vie, sur la vie de tous les jeunes hommes, la bénédiction de Dieu. Je te bénis, je bénis ta famille, je bénis ton pays d'origine. Que cette maison soit pour vous une maison de refuge. Que cette maison soit pour vous une maison dans laquelle vous puissiez être heureux. Ici, c'est la famille du Seigneur. Jésus est venu en sauvant, sans juger. Il est venu pour nous tous, en te lavant les pieds. Je veux bénir tous les aînés qui sont dans ce lieu et au nom des jeunes dire, nous voulons vous servir. Je veux aussi bénir le Père que tu es pour moi. Te laver les pieds et te dire que je suis là pour te servir. Tant que Dieu te donnera souffle de vie. Je veux aussi au travers de cela demander à tous les jeunes qui sont ici d'honorer leur père et leur mère et de les bénir en les servant simplement, de les honorer. Seigneur, tu es là et toi seul, tu nous as montré l'exemple. Père, en lavant les pieds à ce petit garçon, je veux en tant que serviteur dans cette maison m'engager à ce que les plus petits soient toujours honorés. Et je veux au travers de cela bénir également ce matin mon frère Bertrand et tout le travail qui est fait parmi les enfants les plus défavorisés. Bénis-le là où il est. Étends ta main, manifeste ta gloire et ta grâce. Et Seigneur, sur ce petit garçon, j'invoque ta bénédiction. Au travers de lui, je lave les pieds à tous les petits de cette église. Et je te prie de nous aider à toujours les honorer, afin qu'ils aient, Seigneur, la place qui leur revient, celle que tu leur as donnée, en nous disant, si vous ne devenez pas comme eux, vous n'entrerez pas. Père, qu'au milieu de nous, nous gardions nos enfants, les servants. Que nous puissions les bénir en étant des exemples, pas des moralisateurs. Pas simplement de ceux qui disent « tu dois faire et tu dois faire ceci et nous ne le faisons pas ». Père, en lavant les pieds de ma sœur, je veux laver les pieds de toutes les sœurs qui sont dans cette église. Et leur dire « nous sommes là pour vous servir et je suis là pour vous servir ». Et si j'ai pu vous blesser, pardonnez-moi. Seigneur, je veux te remercier pour ces femmes merveilleuses que compte la parole de Dieu, pour ces femmes merveilleuses que compte cette Église, elles nous sont précieuses. Tu nous as établis en tant que chefs de famille, non pas pour dominer, mais pour protéger. Aide-nous à être fidèles, nous tous, les hommes qui sommes ici, afin que nous protégions nos épouses, que nous protégions nos enfants, non pas les dominions, non pas les commandions comme des chefs, mais que nous soyons des chefs dans le vrai sens du terme, des hommes prêts à donner nos vies comme tu l'as donné. Seigneur, que ma sœur soit bénie. Que ma sœur soit bénie avec toute sa famille. Et Seigneur, que toutes les sœurs ici présentes, que toutes les mamans ici présentes, que toutes les grands-mamans ici présentes, que toutes celles qui ont porté ou non un enfant dans leur sein soient bénies ce matin. Je veux te louer de tout mon cœur. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Pourrions-nous nous lever ensemble, en fermant nos yeux, en nous donnant les mains les uns aux autres, et en commençant à prier, prier pour votre voisin, votre voisine, en commençant à dire, Seigneur, je ne veux pas m'élever, je veux m'abaisser pour le servir. Je ne veux pas m'élever. S'il doit y avoir une seule course dans ce lieu, et dans nos cœurs, c'est la course au service, comment pourrais-je rendre l'autre heureux? Comment pourrais-je le bénir? Commencez à bénir votre voisin et votre voisine à haute voix. Commencez à proclamer le nom de Jésus sur eux. Je vous le demande, faites-le. Faites-le. Commencez à dire, Seigneur, brise en moi tout ce qui n'est pas à ton service. Brise en moi tout ce qui n'est pas à ton service. Brise en moi tout ce qui est de la résistance. Que les jeunes gens puissent dire, Seigneur, brise en nous tout ce qui est de la résistance. Tout ce qui est de l'orgueil, tout ce qui... Est-ce qu'il y a cette volonté de nous élever? Tu es venu non pas en dominant, mais en servant. Ce matin, j'aurais pu appeler des frères suisses, des frères allemands, des frères bulgares, des frères roumains et bien d'autres encore, je le sais. Je devrais laver les pieds à tout cet auditoire, vous savez que ce n'est pas possible, mais je voudrais qu'au travers de ces 5 personnes, tout le monde soit concerné. Tout le monde. Aux malades, je veux dire, nous sommes là pour vous servir. Aux dépressifs, nous sommes là pour vous servir. Oh, relevez votre tête. Aux drogués, nous sommes là pour t'aider. Aux voleurs, on est là pour t'aider. Même si je te dis la vérité, mais je suis là pour t'aider. Seigneur, fais de nous des serviteurs les uns des autres. Oramase amarandashe karamariambase Serrimini viso, se la varia vara vara varia vara vara varia angara varia mabasai talabaro, si mara mare ne yalabadona manda se.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.